Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui est là. Pour les 30 prochaines minutes, c'est l'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. La Semaine québécoise des personnes handicapées se poursuit. J'avais envie de vous partager le parcours d'une jeune femme inspirante, Mélissa Boisvert. C'est une résidente de Grimbay qui a une déficience visuelle due à une rétinite pigmentaire. Et ce, depuis la naissance. Toutefois, ça ne l'empêche pas de pratiquer le paracyclisme en tandem, et ce, depuis quelques années déjà. Mélissa est membre de l'équipe canadienne de paracyclisme. Elle rêve d'une participation aux Jeux olympiques de Rio en 2016, et elle sera là en deuxième partie d'émission pour nous parler de sa passion, le sport. Et puis, présente dans plus de 65 pays, la maladie de Lyme a toutefois fait son entrée au Québec que depuis quelques années, et elle gagne sans cesse du terrain. En 2013, 141 cas de maladie de Lyme ont été rapportés au Québec, comparativement à 43 pour l'année 2012 et 32 en 2011. On peut voir qu'il y a une réelle augmentation. Et tout ça à cause d'une toute petite piqûre de tique, communément appelée tique à patte noire. On en parle davantage à l'instant avec Dr. François Milor, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Milor, bonjour.
Bonjour.
Quand on s'intéresse à la maladie de Lyme, on se rend compte qu'elle existe depuis des siècles. Elle accompagne l'homme depuis quasi toujours. Elle représente la plus fréquente des maladies infectieuses transmises par un animal dans l'hémisphère nord. Mais au Québec, c'est une petite nouvelle. Comment on peut expliquer cette apparition et également cette augmentation de la maladie de Lyme?
Il faut comprendre qu'aux États-Unis, donc la maladie nous vient du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre. C'est là qu'elle a été découverte. Comme vous le dites, elle existe depuis longtemps, mais elle a été découverte à la fin des années 70. En fait, dans une ville qui s'appelle Lyme au Connecticut, mm-hmm. À partir de là, on l'a appelée du nom de maladie de Lyme. Mais donc, les tiques, au fond, ce qu'on comprend, c'est qu'elles ont progressé au fur et à mesure des décennies en s'approchant de nous, en allant vers le nord. Et c'est vraiment depuis environ les années 2005 qu'on retrouve beaucoup de tiques dans le sud du Québec, en particulier près de la frontière américaine. Et ces tiques-là, donc avec le temps, sont devenues infectées par... Elles ont augmenté en nombre et elles sont devenues infectées par la bactérie qui cause la maladie. Et comme vous l'avez mentionné, donc dans les dernières années, on a vu davantage de personnes qui ont été infectées.
Mais est-ce que c'est dû au réchauffement climatique?
Le réchauffement climatique peut jouer un rôle, certainement, mais il y a vraiment une progression de la tique vers le nord, tranquillement, puis elle avance. Sauf que il faut voir que dans des conditions difficiles, par exemple avec des hivers rigoureux, prolongés, la tique ne peut pas bien survivre. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, si on a des étés plus longs, des températures plus chaudes, ça va favoriser la survie de la tique et ça nous met davantage à risque d'être exposés.
On parlait des régions davantage touchées au Québec, qui sont près de la frontière américaine. Il y a la Montérégie qui est également beaucoup touchée, je crois, ici.
Oui, c'est ça. On parle de la Montérégie, un peu de l'Estrie, et on voit que ça se dirige vers l'est, on pourrait dire vers le centre du Québec. Mais pour le moment, là, les zones les plus à risque, c'est le sud de la Montérégie, près de la frontière.
Mm-hmm. On parle du Mont-Saint-Hilaire là, comme foyer principal de transmission de la bactérie, de la maladie de Lyme.
Bien, c'est un endroit parmi d'autres. Je vous dirais que les grandes forêts en Montérégie ou les montagnes où il y a des forêts en Montérégie, bien évidemment, ce sont des sites très favorables. La tique a besoin d'un environnement naturel où plusieurs animaux se retrouvent, mm-hmm. et donc c'est pourquoi on la retrouve vraiment dans les forêts, les boisés, et non pas dans les champs comme tels.
Uh-huh. Et la maladie peut s'agripper à des animaux, comme vous venez de le dire, Dr Milor, comme par exemple des oiseaux.
Oui, en fait, les oiseaux sont un des facteurs qui favorise la propagation de la tique, parce que la tique doit piquer, que ce soit un animal ou un humain, elle doit rester accrochée pendant plusieurs jours pour prendre le repas de sang dont elle a besoin. Alors, on comprend que si elle pique un oiseau, bien, elle peut se retrouver à une grande distance du point de départ quelques jours plus tard. Et donc, ça peut, à ce moment-là, donner naissance à une nouvelle population de tiques dans ce nouvel environnement-là.
Et juste pour être certaine de bien comprendre, est-ce que toutes les tiques sont porteuses de la bactérie ou une tique à pattes noires pourrait ne pas véhiculer la bactérie?
En fait, c'est une petite proportion des tiques qui sont positives, donc qui sont porteuses de la bactérie. Au Québec, on parle d'autour de 15 % entre 12-17%, enfin ça dépend un peu des endroits, mais c'est ça, autour de 15%. Donc 85% des tiques n'ont pas la bactérie. Par contre, on sait que dans les endroits aux États-Unis où la maladie est installée depuis très longtemps, on peut avoir des proportions plus élevées, peut-être de 40% des tiques qui sont infectées. Mais ce n'est jamais toutes les tiques qui sont infectées.
Est-ce qu'il y a des mesures en ce moment qui sont mises en place pour éviter justement que les tiques soient infectées ici?
On ne peut pas vraiment prendre de mesures pour, en tout cas à ce moment, pour contrôler les tiques. On comprend que, étant donné que les tiques vivent dans un environnement naturel, il faudrait bouleverser cet environnement-là par des mesures pour modifier la situation au niveau de l'installation de la tique et de l'infection par la bactérie. Ce qu'on doit faire surtout, c'est vraiment d'informer les gens des différents moyens de se protéger en comprenant où la tique se trouve et aussi comment la tique se comporte.
Bien, justement, parlons-en tout de suite, Dr Millard, de ces stratégies de prévention, parce que bien sûr, c'est l'été qui s'en vient, on ne veut pas rester à l'intérieur, on a envie de sortir, d'aller en forêt, en expédition, peut-être de jardiner, tout ça. On ne veut pas dire aux gens de s'empêcher de le faire. Comment on prévient les piqûres de tiques?
Alors, vous avez raison, on souhaite surtout que les gens continuent leurs activités extérieures, mais en comprenant ce nouveau problème, ce nouveau risque qu'on peut retrouver dans certaines forêts du sud du Québec. Alors, il faut comprendre d'abord que la tique, elle ne saute pas sur les gens. Donc, elle est accrochée à la végétation et elle va se transférer sur une personne ou un animal qui va frôler la végétation. Alors, elle est dans les herbes, par exemple, dans la forêt, dans le sous-bois, la tique va rester accrochée dans les herbes et donc va se transférer à une personne qui frôle la végétation. Si on circule dans des sentiers dégagés, il n'y a pas de tiques. Les tiques ne sont pas dans le milieu du sentier, elles doivent s'accrocher à la végétation. Donc, si on est dans un environnement où les sentiers sont dégagés et qu'on reste dans les sentiers, à ce moment-là, il n'y a pas de danger. L'autre façon d'éloigner les tiques, ce sont les mesures qu'on utilise aussi pour les moustiques, c'est-à-dire l'utilisation d'un produit chasse-moustique. Mm-hmm. On dit souvent un produit qui contient le DEET, donc le composant chimique qui s'appelle le DEET. On a aussi l'utilisation de vêtements de couleur claire, parce que si une tique vient sur nos vêtements, on va la voir plus facilement s'ils sont de couleur claire. Bon, de mettre les bas du pantalon dans nos bas pour empêcher l'accès à notre peau. Donc, il y a des mesures comme ça. Le deuxième type de mesure, c'est après une activité en forêt, on recommande aux gens de s'examiner pour chercher si une tique a pu s'accrocher à la peau. Puis à ce moment-là, si on en trouvait une, bien on pourrait l'enlever. Mm-hmm. Donc il y a les deux étapes. Donc d'abord éviter d'être piqué, puis ensuite de s'assurer que nous n'avons pas été piqué et de retirer la tique.
Elle est visible à l'œil nu, la tique?
Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est tout petit, une tique. Mm-hmm. On parle de quelques millimètres quand on parle de la tique sous la forme nymphe ou adulte. Donc, c'est une arthropode qui a quelques millimètres de grosseur. Une fois qu'il est accroché à la peau et qu'il se gorge de sang, il va grossir. Mais souvent, ce que les gens vont dire, qui remarquent une tique, ils vont dire, c'est comme si j'ai un nouveau point noir sur la peau, une tache que je n'avais pas vue. Puis quand ils vont toucher, ils vont se rendre compte que ben c'est pas ma peau, c'est quelque chose qui est accroché à ma peau. quand la tique est un peu plus grosse, si elle a commencé à boire du sang, ben là, certaines personnes vont dire, c'est comme si j'avais une petite tétine, j'ai jamais remarqué ça avant. Et donc, en y regardant de plus près, on se rend compte que c'est un arthropode qui est attaché à notre peau et il faut l'enlever.
Ouais. Quelles sont, docteur Milord, les façons de retirer la tique? J'imagine que ça doit être extrêmement délicat comme opération.
Alors, la tique est composée de deux parties. Il y a une partie dure, en fait, on pourrait dire c'est la tête de la tique qui contient aussi le dard qui pénètre la peau. Cette partie dure est collée à la peau et ensuite, il y a une partie plus molle qui va se dilater quand la tique va boire le sang. Donc, ce qu'on recommande, c'est de prendre une pince à pointe fine, la pointe la plus fine qu'on peut trouver chez soi, et de serrer la partie dure de la tique vraiment tout près de la peau. Donc, sur la peau. Et là, quand on tient bien cette partie-là, on retire progressivement la tique d'un mouvement continu. Et voilà, on s'est débarrassé de la tique. Il faut faire attention de ne pas crever la tique en tant que telle ou serrer la partie molle, justement, pour pas briser la tique.
Oui, parce que c'est là que se trouve la bactérie.
C'est là que se trouve la bactérie, effectivement.
Mm-hmm. Bon, advenant le cas que la tique a quand même pu faire son vilain travail, comment on peut reconnaître les symptômes de la maladie de Lyme? Parce qu'une fois qu'elle nous a piqué, on a la maladie de Lyme, c'est bien ça?
Bien, si la piqûre a été a duré assez longtemps, on comprend que dans les 24 premières heures, c'est un processus très, très lent pour la tique. Dans les 24 premières heures, il n'y a pas encore de transmission de la bactérie. Mm-hmm. C'est plus tard que ça survient. Donc, après 24 heures, là, le risque commence à augmenter. Mm-hmm. Une fois, donc, qu'on est infecté, les premiers symptômes surviennent dans le mois qui suit la piqûre. Ça peut être une semaine, 10 jours, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Il s'agit de deux types de symptômes. Des symptômes généraux d'infection, c'est-à-dire de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue et une rougeur au site où la tique nous a piqué.
Mm-hmm.
Donc ça, ce sont les premiers symptômes. Si on remarque ces symptômes-là, évidemment, il faut consulter. On peut téléphoner à Info Santé pour avoir des conseils, consulter un médecin. Donc, il faut vraiment faire une démarche. Si la maladie n'est pas reconnue dans cette première phase-là, donc
c'est-à-dire le premier mois,
donc peut-être parce que c'est passé presque inaperçu, il y avait très peu de symptômes, on n'a pas fait attention, à ce moment-là, ça peut évoluer et la bactérie va se disperser dans notre corps et peut toucher d'autres organes.
Uh-huh.
À ce moment-là, on parle d'atteinte au niveau du système nerveux. Certaines personnes vont avoir des faiblesses ou des paralysies. On parle de problèmes au niveau articulaire surtout, donc des douleurs dans les articulations, et plus rarement de certains problèmes au niveau cardiaque. En fait, c'est le rythme du cœur qui peut être ralenti.
Ce sont des complications assez graves, Dr Miller.
Ce sont des complications assez graves. Malgré tout, qui se traitent relativement bien, évidemment, le plus tôt étant le mieux.
Et ça se traite par des antibiotiques?
Ça se traite par des antibiotiques. Quand on est dans la première phase, on parle d'un traitement antibiotique avec un médicament qui est utilisé couramment pour les infections, qu'on donne pendant 2 semaines, 3 semaines. Donc, le médecin va vous recommander cela. Et dans la grande majorité des cas, c'est suivi par une guérison, disparition des symptômes. Quand on est en phase plus avancée, là, généralement, il peut être avisé d'être référé à un médecin spécialiste en infectiologie ou dans un autre domaine en fonction du problème. Et le traitement peut être un peu plus prolongé à ce moment-là. Et ça pourrait arriver, le traitement peut fonctionner assez bien, mais ça pourrait arriver que des personnes gardent comme une séquelle ou une conséquence là, de cette infection pour des mois par la suite.
Mm-hmm. Docteur Milord, est-ce que les médecins québécois sont suffisamment habitués à reconnaître les symptômes de cette nouvelle maladie ici en province?
Vous avez mentionné au début le nombre de cas qui a été rapporté dans les dernières années. Donc, on constate que oui, la maladie augmente, mais c'est quand même une maladie assez peu fréquente. Malgré tout, on en parle beaucoup dans la population, dans les médias. On en parle aussi au niveau des organismes médicaux, les organismes de formation des médecins. Il y a beaucoup d'informations qui est rendue disponible en ligne pour les médecins mm-hmm. par différentes organisations de santé publique. Et je pense que de plus en plus, les médecins prennent conscience de cette maladie, comment évidemment l'identifier et comment la traiter.
Ouais. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup de controverses autour du traitement de la maladie, là, autant chez vos confrères et consoeurs américains qu'ici. Là.
C'est la controverse concerne principalement les personnes qui ont des symptômes disons, on pourrait dire chronique ou ouais. à long terme.
Mm-hmm, c'est vrai.
Donc, je ne pense pas qu'il y ait une controverse dans le traitement des symptômes initiaux de la maladie, donc dans le premier mois, les premiers mois. Par contre, chez des patients qui auraient été malades depuis longtemps, là, il y a davantage une controverse sur le traitement le plus approprié, certains prônant des antibiotiques de façon plus prolongée et d'autres disant que ce n'est pas nécessaire. Je pense que il n'y a pas de réponse générale à cette question-là. C'est vraiment pour chaque personne en fonction de sa situation qu'il faut analyser la question.
Je pense en terminant, Dr Miller, qu'il est important de dire que la maladie ici doit être obligatoirement déclarée. Si on se retrouve avec des symptômes, si l'on voit une piqûre sur notre peau, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ce qu'on recommande quand il y a une piqûre, c'est vraiment de retirer la tique le plus rapidement possible. Si on a des questions, on peut contacter Info Santé qui pourra nous donner des conseils sur comment la retirer. On peut trouver ces conseils-là aussi facilement sur des sites Internet. Mm-hmm. Par la suite, on ne recommande pas de consulter un médecin pour la piqûre de tique en tant que telle parce qu'il n'y a pas d'action à prendre autre que de retirer la tique. Par contre, c'est vraiment à ce moment-là la surveillance des symptômes dans le mois qui suit. Et puis, si on a une inquiétude, à ce moment-là, consulter son médecin pour en avoir le cœur net.
Et de prendre en photo, je pense, la piqûre, de pouvoir noter également à quel moment on peut avoir été piqué, à quel endroit aussi. C'est important, ça, pour la santé publique?
Oui, bien, ce sont des informations qui peuvent être utiles pour la santé publique et pour le médecin. Dans certains cas, si on a conservé la tique, le médecin pourra faire analyser la tique et ça va être utile pour la santé publique. Mm-hmm. Par contre, je dirais que dans le sud de la province, là où il y a beaucoup, beaucoup de tiques, on ne veut plus nécessairement faire analyser les tiques parce qu'on sait qu'elles sont bien installées, donc ça oui. n'apporte pas d'informations supplémentaires. Mais ça, c'est vraiment le médecin qui vous le dira. Est-ce que c'est utile ou pas de faire analyser la tique que vous apportez?
Et d'ailleurs, pour avoir davantage d'informations, on peut aller sur le site de l'Institut national de santé publique du Québec, www.inspq.qc.ca, et avoir davantage d'informations sur la maladie de Lyme. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet, Dr Miller, Dr François Miller, et je vous souhaite un très, très bel été.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Mélissa Boisvert, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il fait beau à Granby? Fait soleil autant qu'à Montréal?
Bonne question. De l'intérieur de mon bureau, je ne peux pas vous répondre.
Mais ça, c'est un petit peu bruyant derrière vous. Vos collègues sont bien contents que vous participiez à l'entrevue?
Oui, effectivement.
On va tenter tout de même de se parler. Mélissa Boisvert, vous êtes née avec une rétinite pigmentaire, ce qui fait que vous vivez avec une limitation visuelle depuis la naissance. Je pense pas me tromper quand je dis que la pratique d'un sport ou d'une activité physique, ça n'a pas toujours été évident pour vous dans votre parcours.
Non, effectivement, j'ai majoritairement fait des sports individuels. Donc, j'ai fait 14 ans de ballet classique. Pour ce qui est du sport à l'école, j'ai été retirée assez rapidement dès que les sports d'équipe sont arrivés. Donc, j'ai jamais vraiment fait de sport physique autre que le ballet classique et le ski alpin. Puis, quand j'ai découvert le vélo, ça m'a permis de faire un sport qui est habituellement individuel, mais en équipe.
Mm-hmm. Mélissa, comment avez-vous découvert le paracyclisme?
C'est vraiment une question de circonstances. J'ai participé à la journée de lancement du défi sportif en 2010. Et puis, lors de cette journée, il présentait les différents sports. Et puis, lorsqu'est venu le temps de parler des sports en déficience visuelle, évidemment, le goalball est arrivé tout de suite. Et ça a été plus fort que moi. J'ai levé la main, j'ai dit, est-ce qu'il y a autre chose que le goalball? Et puis, ils m'ont dit, oui, il y a le vélo tandem. Et puis, ça a planté une petite graine. Et la semaine d'ensuite, je me rendais au contre-la-montre de Grimby, où j'ai rencontré l'instructeur national, le directeur de la fédération. Et puis, mon aventure a débuté là en 2010. Mais je m'entraîne depuis 7 ans.
Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour le vélo?
Je faisais du vélo, mais vraiment très, très rarement. J'avais un tandem que j'appelle affectueusement ma grosse Bertha. Mais c'était vraiment pas fréquent. Je pouvais en faire peut-être une ou deux fois par année, gros, gros maximum. Donc, j'ai découvert quelque chose en 2010, puis je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique.
Oui, vous dites qu'avant 2010, avant de découvrir le paracyclisme, vous vous étiez jamais vraiment épanouie sur le plan sportif.
Non, effectivement, j'aurais beaucoup aimé jouer au soccer parce que je suis dans une famille de joueurs de soccer. Et puis, j'ai jamais eu vraiment la chance de découvrir le sport qui me passionnait. Et puis, depuis 2010, j'ai eu la chance de le découvrir. Puis, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'aime pas que le vélo, j'aime courir aussi.
Oui.
Donc, je fais les deux. Donc, c'est très agréable.
Mélissa, quels sont les bienfaits sur votre santé du vélo en tandem?
Ah, ils sont énormes. Je découvre de l'énergie que j'avais pas avant. Je découvre des muscles qui étaient pas là avant non plus. Je m'alimente bien. J'ai beaucoup plus d'énergie autant dans ma vie sportive que dans ma vie professionnelle. Donc, ça a des impacts sur toutes les facettes de ma vie.
Et parlant d'alimentation, vous devez justement bien, bien observer de près ce que vous mangez. Vous avez quand même une grande discipline, Mélissa.
Oui, c'est sûr que moi, à la base, je mangeais quand même bien. Je mangeais pas beaucoup. Donc, ce qui a été plus difficile dans mon cas, ça a été d'aller chercher les bonnes calories et assez de calories pour réussir à passer au travers. Les premiers mois ont été plus difficiles. Mais sinon, maintenant que j'ai établi ma routine, je sais quels sont les bons éléments, puis je sais quand je commence à être sur le point de bunker, comme on dit en vélo, je vais m'alimenter correctement, puis je réussis à remonter la pente rapidement. J'ai toujours des trucs, des noix ou quoi que ce soit à portée de main.
Une bonne hydratation également, un sommeil réparateur. Encore là, ça fait partie de votre routine santé.
Absolument. absolument. La bouteille d'eau est toujours sur mon bureau, puis j'essaie de dormir mes 8 heures parce que sinon, je vais avoir de la misère et mon entraînement va en souffrir et même au travail, là, je vais en ressentir les effets.
Mélissa, est-ce que depuis 2010, dans votre parcours de cycliste, vous avez rencontré certains obstacles ou certaines difficultés?
Oui, bien, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile, donc de trouver la bonne pilote avec mm-hmm. qui performer. Moi, j'ai pas eu une pilote stable depuis 2010, mais depuis l'an dernier, maintenant, j'ai une pilote stable qui s'appelle Evelyne Gagnon. Et puis, on se développe ensemble depuis bientôt près d'un an, en juin. À la fin juin, ça va faire un an. Mm-hmm. C'est vraiment, on voit l'amélioration, on continue, on a fait nos standards au niveau développement lors du défi sportif cette année. Donc, c'est une complicité qui se développe et puis on en voit les effets vraiment de plus en plus là, avec l'expérience.
Mm-hmm. Est-ce que votre limitation visuelle vous amène certains obstacles, Mélissa?
Évidemment, mais un peu comme n'importe quelle limitation. Sauf que moi, j'ai toujours défoncé des portes depuis que je suis tout petite. Mes parents m'ont appris à jamais arrêter devant les obstacles et puis de tout faire pour tenter de les surmonter. Donc, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'ai fait pendant mes études, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle. Je suis quand même une personne avec une déficience visuelle qui travaille en communication.
Oui, c'est vrai.
Dans une agence de communication. Donc, j'aime bien relever des défis puis m'en aller hors des sentiers battus.
Oui, et c'est également l'attitude que vous avez envers votre sport, Mélissa, de défoncer des portes, de continuer d'y croire. Est-ce que ça serait d'ailleurs, ça ferait partie de vos conseils à l'adresse de quelqu'un qui vit également avec une déficience visuelle et qui aura envie de se mettre au sport et à l'activité physique?
Oui, oui, il faut se battre. Puis c'est là qu'on moi, personnellement, quand je me rends compte que j'ai surmonté un obstacle ou que j'ai relevé un défi, ben je me dis que pour moi, c'est bien, mais pour les gens qui vont passer en arrière de moi aussi. Mm-hmm. Donc, c'est encore plus valorisant. Et puis, dans le sport, ben le sport le dit, le sport d'élite, ben c'est des défis, c'est sortir de sa zone de confort au quotidien.
Oui. Mélissa, on vous souhaite les Jeux olympiques de Rio en 2016.
Ben merci.
Et puis, ben un bon été. J'imagine que vous serez pas mal sur les routes en train de rouler avec votre coéquipière. Je rappelle, Mélissa Boisvert, vous êtes, ben, vous travaillez, oui, dans une agence de communication chez Esprit Libre Communication à Grimbay. Et ben, vous êtes athlète de paracyclisme. Merci beaucoup.
Ben merci, c'est moi qui vous remercie.
Au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Nous, on se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.